dépendre de toi et nous te demandons de garder nos lèvres et que sur ces lèvres tu puisses mettre des paroles de grâce qui pénètrent dans les cœurs et que chacun ici se sente proche de toi et que dans ton amour tu nous prépares pour que tu puisses habiter pleinement en nos vies. Que ce ne soit plus nous qui vivions, mais le Christ qui vit en nous. Pour ta seule gloire. Amen. Amis, vous connaissez le thème de toute cette année 1994 et en ce samedi matin du 12 novembre, nous allons le poursuivre. C'est l'Esprit de Dieu à la lumière des Saintes Écritures. C'est pas à la lumière de nos connaissances personnelles, mais que dit l'Écriture au sujet de l'Esprit de Dieu, de sorte que vous connaissez nos sources et vous pouvez vous-même contrôler, puisque chacun de vous est venu, comme nous le demandions, avec une Bible. Et alors, aujourd'hui, nous aborderons le troisième volet de cette retraite. En juin dernier, qui était notre première retraite de l'année ici, on a d'autres retraites ailleurs, mais ici, c'était la première retraite. Nous avons considéré la présence et l'action du Saint-Esprit ou dans l'œuvre de la création. Alors, nous avons ouvert nos Bibles à quelle page? À la première page du livre, puisque les Écritures, c'est aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Et il est dit que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et qu'elles sont utiles pour nous enseigner, pour nous convaincre, parce que nous devons être des hommes et des femmes qui ont des convictions, pour nous convaincre, pour nous corriger, parce que on peut être à côté de la plaque, bien souvent, avec nos idées. Alors, l'Écriture nous remet au centre, hein, nous corriger et nous instruire. Dans quel but? Afin de rendre l'homme de Dieu, et c'est aussi la femme de Dieu, parfaitement accomplie, propre, pour toute bonne œuvre. Parce que vous savez, le Seigneur a un but. Et s'il nous a sauvés, et c'est pour que nous puissions accomplir en son nom et pour lui les œuvres que lui-même a préparées. Alors vous voyez, il nous faut être conscients de cela. Vous êtes sauvés non pas pour ne pas aller en enfer, simplement à la fin de votre vie, mais vous êtes sauvés pour une œuvre. Et cette œuvre, c'est pas vous qui allez la choisir. Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Et c'est pas une montagne. Quand on connaît l'Écriture, on apprend que ces bonnes œuvres, c'est lui qui va les accomplir pour nous. Toutes nos œuvres, c'est toi qui les accomplis pour nous. Et nous lisons ça dans le prophète Ésaïe au chapitre 26e. N'est-ce pas quand même merveilleux? Toutes nos œuvres, c'est lui qui les accomplit pour nous. De sorte qu'il ne nous écrase pas. Nous continuons à proclamer que le joug du Seigneur est doux et aisé, que son fardeau est léger. C'est nous qui nous fatiguons pour le Seigneur, alors que nous devons nous laisser faire par le Seigneur. Et c'est là, comme je le répète souvent, la grande leçon que nous a donnée Marie, la mère bien-aimée de Jésus. Elle s'est laissée faire. Et c'est là qu'elle est vraiment la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est pas vouloir faire des choses pour Dieu, qu'on est découragé, ça ne marche pas. C'est se laisser faire par Dieu. Ce que tu veux, Seigneur, ce sera bien. Et je suis d'accord. C'est là notre accord. Alors, donc, on a commencé, en ouvrant nos Bibles dans la Genèse, à considérer le Saint-Esprit dans l'œuvre de la création. Et qu'est-ce que nous avons vu? Au verset 2, déjà, après la création des cieux et de la terre, nous lisons le verset 2, que la terre était désolation vide, tohu bohu, mais que sur tout cela, sur cette matière en confusion, eh bien, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors, je ne reviens pas sur ce thème, nous l'avons, il est enregistré aussi, et puis nous avons considéré en même temps, enfin, les grandes vérités concernant le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, puisque nous étions dans les premières pages de la Genèse. Et en lisant la Genèse, nous nous sommes aperçus que la plupart des grandes vérités que nous connaissons sont déjà en germe dans la Genèse. Vous retrouvez tout cela dans l'étude du mois de juin. Puis ensuite, alors, au mois d'octobre, hein, le mois dernier, donc, dans un deuxième volet, nous nous sommes arrêtés sur la présence et l'action du Saint-Esprit dans l'œuvre de quoi ? De la rédemption. On a vu dans l'œuvre de la création la place qu'avait le Saint-Esprit, on l'oublie si souvent, et puis ensuite nous avons vu le Saint-Esprit dans l'œuvre de la rédemption. Ou plus exactement, et je le souligne, dans la personne de qui ? Du Rédempteur. L'œuvre du Saint-Esprit dans la personne du Rédempteur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Jésus-Christ, en tant qu'homme, a été dépendant du Saint-Esprit pour toutes choses, pour ses pensées, pour ses paroles et pour ses actions. Il n'a rien attribué à lui-même, il a tout attribué à l'Esprit de son Père, à l'Esprit de Dieu. Ce Fils éternel, il s'est fait homme, le mystère de l'incarnation, hein, mais c'est réellement fait homme, né d'une femme, né de la Vierge Marie. Alors, il était juste que nous considérions, alors dans l'évangile de Luc, comment le Saint-Esprit a couvert qui, d'abord, une femme. Et c'est ça qui est merveilleux. Hein. Le Saint-Esprit qui couvrait la création, qui restaurait la création, eh bien, il est venu sur une femme qui se savait pécheresse, humble, comme toutes les filles d'Israël aussi, mais qui avait en elle-même cette espérance et qui était dans le cœur de toutes les femmes d'Israël. Eh bien, nous avons vu à un moment donné le Saint-Esprit qui a visité Marie après l'annonce faite par l'ange. Et hier soir, mes amis, Dieu vous a donné une parole, hein, au sujet de la paix. La paix soit avec vous. C'est une parole du Seigneur. Mais quand cette parole est animée par le Saint-Esprit, cette parole devient une réalité. Et quand Marie a entendu les paroles de l'ange, et qu'elle était choisie pour être la mère du Messie, elle a dit, mais comment ces choses peuvent-elles se faire? Et qu'est-ce qui lui a été répondu? Le Saint-Esprit descendra sur toi, te couvrira de son nom. Alors, comme on a vu le Saint-Esprit descendre sur la création, on voit le Saint-Esprit descendre sur une créature qui est disposée, parce qu'elle est remplie de la parole des promesses, elle attend la réalisation de ses promesses, et le Saint-Esprit fait son œuvre admirable en Marie. Une conception miraculeuse. Après avoir rendu enceinte une femme qui ne pouvait plus l'être, semble-t-il, qui s'appelait comment ? Élisabeth, mais ça, on a vu tout cela, eh bien, Dieu a manifesté sa puissance pour Élisabeth, qui était la cousine de Marie, et puis maintenant il manifeste sa puissance pour cette jeune vierge, cette fille qui est encore vierge, elle n'a plus que 15 ans, mais elle est encore vierge et le Seigneur va l'employer. Oh mes amis, comme ça doit nous parler en ces temps, et l'exemple de Marie qui s'est conservée pure pour le Seigneur et qui admettra dans le Magnificat qu'elle est sauvée par le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Elle appelle Dieu son sauveur. Et j'entends toujours, lorsque je faisais une conférence au Montmartre canadien, le père des hôtels, après une affirmation que j'avais faite, est venu pour souligner cette vérité que Marie elle-même avait été sauvée par le sang précieux de Christ. Et c'était beau. Que la grâce de Dieu nous soit donnée à nous aussi. Alors, nos yeux se sont surtout arrêtés, le mois dernier, je dirais longuement, sur cet homme qui était appelé Jésus, dont la conception donc est attribuée au Saint-Esprit. Et vous allez voir, il y a un livre qui vient de paraître où on nie toutes ces choses-là. En 1994, on ne peut pas croire ces choses-là, ce sont des mythes, une conception du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Eh bien, nous le croyons. Et ce qui m'attriste, c'est de voir que même dans le catholicisme, qui gardait certaines vérités, alors qu'un certain protestantisme avait dévié, eh bien, maintenant ça entre aussi, et on ne croit plus. Alors que c'est permis. Nous attribuons la conception de Marie au Saint-Esprit. Et alors, nous voyons ensuite, dès sa naissance, Jésus, qui est le second homme, venu du ciel, son commencement n'était pas à la crèche, pas plus que sa fin serait à la croix, celui qui est appelé le dernier Adam, en qui Dieu le Père a mis tout son plaisir, toute son affection. Eh bien, cet être, en tant qu'homme, il fut dépendant de l'Esprit à tous les âges de sa vie terrestre. Alors, nous-mêmes, chers amis, si nous sommes au Seigneur, nous ne pouvons pas nous passer du Saint-Esprit. Jésus, à tous les âges de sa vie terrestre, dépendait du Saint-Esprit. Nous avons vu Jésus enfant, nous l'avons vu adolescent, nous l'avons considéré homme saint dans son ministère, dès son baptême, dans la tentation au désert, dans l'accomplissement de ses miracles, dans sa prédication, et jusque dans sa mort, on voit que tout est attribué au Saint-Esprit. Il disait qu'il ne pouvait rien faire de lui-même, et qu'il ne disait rien de lui-même. Sa doctrine venait de son Père. Il disait ce qu'il avait entendu dire par le Père. Il ne s'est jamais rien attribué. Alors, bien sûr, les Juifs religieux, mais incrédules, parce qu'on peut être religieux et incrédule. Et c'est ce qui se manifeste de plus en plus dans de nombreuses églises, sinon dans toutes les églises. On est peut-être religieux, on pratique certaines coutumes, mais au fond, on ne croit pas. Car si nous croyons la parole, eh bien, il y a tant de choses qui seraient différentes, manifestées, et qui recommanderaient le christianisme plus que tous les efforts d'évangélisation. Voyez-vous, on met maintenant notre confiance dans des grandes manifestations. Eh bien, ce qui doit compter pour nous, c'est de croire individuellement, là où nous sommes, la parole. Et ce sera la parole qui sera peu à peu connue dans votre étage, dans votre maison, chez vos voisins. Il y a des choses qui ne se font pas chez les chrétiens. Mais hélas, maintenant, tout se fait chez les chrétiens. Il n'y a pour ainsi dire pas de différence. Alors, que voulez-vous? Vous pouvez donner des traités, mais on les déchire. Ce n'est pas les traités qui feront le plus. C'est votre vie personnelle qui doit devenir un traité. Et même si on se moque de vous, vous devez être dépendante du Seigneur, même pour aller chez le coiffeur. Pour l'achat d'une robe pour les femmes, pour l'achat d'un vêtement pour les hommes aussi. Dans notre vie quotidienne, dans notre travail, dans notre manière d'être avec nos collègues, nos camarades. Parce que Jésus, lui, il a toujours été dépendant de l'Esprit, dans les réponses qu'il donnait à ceux qu'il questionnait. Alors bien sûr, quand Jésus accomplissait des miracles, comment expliquer cette puissance qui se manifestait chez lui? Qu'est-ce que les gens religieux ont dit de lui? Qu'il chassait les démons par quelle puissance? Par la puissance des démons. Ils attribuaient la puissance qu'avait Jésus aux démons, parce qu'ils ne voulaient pas admettre qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était venu de Dieu. Ils ne voulaient pas l'admettre. Alors on attribuait ça. Alors, qu'est-ce que Jésus répondait? Eh bien, il répondait, « Si moi, je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » Jésus affirmait que ce qu'il faisait, il le faisait par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Et je souligne bien ce texte, vous pouvez le noter, Matthieu 12, verset 22. Parce qu'il y avait des juifs qui chassaient aussi les démons. Alors Jésus disait, oui alors, moi je chasserai les démons par Belzébul, mais Belzébul, Satan, ne peut pas être divisé contre lui-même. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume est venu au milieu de vous. Et c'est ça justement le péché impardonnable. Ce péché, c'est là que Jésus dit que ce péché-là ne peut pas être pardonné ni dans ce siècle, là où il était, on le voyait, ni dans le siècle à venir, quand il reviendra et qu'il régnera sur la terre. Car il faut qu'il règne. Il n'y a pas eu encore de règne humain ici-bas. Et le seul règne humain qui aura lieu, croyez-y ou croyez-le pas, c'est le règne du Seigneur, quand il reviendra dans sa gloire. Alors, il faudra aussi se convertir. Ce sera peut-être apparemment plus facile, mais le cœur de l'homme est tel que s'il y a de l'hypocrisie, eh bien, il y aura une résistance. Mais c'est une résistance, comme nous l'avons vu, qui ne pourra pas durer, parce que le méchant, pendant que Jésus règnera, il y aura la peine de mort, que vous le vouliez ou non. Il n'y aura pas les avortements, hein, mais il y aura la peine de mort pour ceux qui résistent au Seigneur quand il est présent là. C'est un péché impardonnable. Ils seront immédiatement retranchés. Nous ne sommes pas dans ce temps-là, nous sommes dans le temps de la grâce. Alors Dieu tolère certaines choses, il permet certaines choses, c'est pas qu'il est heureux de ces choses-là. Mais il faut que le monde se rende compte que sans Jésus, ça ne va pas. Ça devient de plus en plus abominable, ce sont des atrocités terribles, les gens les plus haut placés tiennent leur tête dans leurs mains, et ils ont peur, qu'est-ce qu'il va arriver? Mais il faut que la ruine de l'homme soit réellement manifestée. Il faut que le monde, avec toutes ses inventions, avec toute sa technologie, fasse faillite. Puisqu'il ne veut pas reconnaître Dieu. Que c'est en Dieu qu'il y a la vraie délivrance. Mais ceux qui veulent accepter de se laisser faire par Dieu, ceux qui se donnent à Dieu, non pas simplement avec une petite décision sur du papier, mais qui se livrent à lui, esprit, âme et corps, et qui disent à Dieu, bien maintenant, fais de moi ce que tu veux. Si tu veux même que je change d'occupation, tu peux me donner un travail où je pourrais te glorifier, si je suis dans une tâche où je te déshonore. Parce que vraiment, quand on est converti, c'est peut-être aussi même la profession qui peut être touchée. Alors que le Seigneur vous garde. Parce que Jésus dit, si le royaume qui était là, puisque le roi était là, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu s'établir ce royaume? Qu'est-ce qui est arrivé? Le roi a été rejeté. Alors, si le royaume n'a pas pu s'établir au temps de Jésus, c'est parce que le roi fut rejeté et crucifié. Et voyez-vous, Jésus n'a pas voulu prendre le pouvoir. Il aurait pu descendre de la croix. Il aurait pu les anéantir. Mais il aurait régné sur qui? Sur des gens irrégénérés. Sur des gens qui n'étaient pas changés. Qu'est-ce qui pouvait les changer? C'était que la question du péché soit réglé. Et alors, quand il s'est présenté devant le Père pour venir accomplir la rédemption, il savait que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Alors, il savait qu'il devait mourir. Ce n'était pas par ses belles paroles, ses paroles magnifiques, qu'il allait sauver le monde, c'était en donnant sa propre vie. Et il ne s'est pas laissé arrêter. Mais alors, vous comprenez que pour Jésus, bien, ce que son Père était, c'était une nécessité de tous les instants. Pour Jésus, être en communion avec le Père, dépendre du Père par le Saint-Esprit, par l'Esprit du Père, c'était quelque chose de tous les instants. Parce qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux que c'est par l'Esprit éternel que le Christ s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Hébreux 9, verset 14. Donc le Saint-Esprit a été constamment sur la vie, dans la vie de Jésus. Mais pour qu'il y ait rédemption, qu'il y ait rachat, ce n'était pas avec de l'argent et de l'or qu'on pouvait se racheter, c'était par le sang précieux du Christ. La rédemption par son sang, Éphésiens 1, verset 7. Mais quand Jésus a accompli dans sa mort tout ce qui était nécessaire à notre délivrance, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il pouvait rester dans la mort? Cette vie parfaite, cette seule vie qui était rempli du Saint-Esprit, qui était la manifestation pleine et entière de ce que le Saint-Esprit est sur un homme. Quand le Saint-Esprit est sur un homme, voilà sa vie, ce qu'elle a été dans la dépendance de Dieu. Certes, comme homme il avait faim, comme homme il était fatigué, il a eu soif, il a souffert, il était appelé l'homme de douleur, il était méprisé, incompris, mais il est allé jusqu'au bout. Alors, quand il a eu donné sa vie, qu'est-ce qui est arrivé? Il est ressuscité. Il ne se pouvait pas qu'une telle vie restât dans la mort. Il est ressuscité, Romains 1, verset 4, et on voit qu'il est ressuscité par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, il est déterminé fils de Dieu. La résurrection du Christ détermine que Jésus était réellement ce qu'il a dit être, le Fils de Dieu. Il a été ressuscité dans la puissance du Saint-Esprit. Alors, nous avons vu hier soir, dans notre introduction, comment Marie-Madeleine était allée au tombeau, avait trouvé le sépulcre vide. Elle était venue faire rapporter la nouvelle aux disciples. Pierre et Jean s'y étaient rendus rapidement au sépulcre où le corps de Jésus n'était évidemment plus là. Mais quand Jean s'est penché pour voir, qu'est-ce qu'il a vu dans le sépulcre? Les bandelettes à terre. Donc Jésus était sorti délié, parce qu'on mettait le corps avec des bandelettes liées. Il était sorti délié du sépulcre. Mais il y avait un ordre parfait dans le sépulcre. Le linge qu'on mettait sur la tête du mort, le suaire, il avait été roulé à une place à part. Et j'aime ces détails. Dans le tombeau, c'est une chambre à coucher en ordre. Est-ce que dans vos maisons, chez les enfants, chez les jeunes, est-ce que c'est un tombeau quand vous quittez votre chambre en disant « Maman s'en occupera ». Pourquoi vous ne pourriez pas vous en occuper vous-même? Regardez ce que Jésus a dit, il n'a pas attendu que les anges viennent plier son suaire. Et il s'est libéré tout seul. Moi je trouve que c'est très beau, c'est ça méditer, c'est s'arrêter sur le texte et dire « Qu'est-ce que tu me dis Seigneur, on prie ». Puis alors il nous vient toute espèce de pensée, on ne se laisse pas aller à notre imagination, mais c'est clair que tout était en ordre, le suaire était roulé à une place à part, donc l'or se trouvait dans le sépulcre vide. Et ça nous montre la dignité du Fils de Dieu. Il avait quitté dignement le séjour des morts. Il n'y avait pas eu de précipitation. Le linge était plié à part. Et là, je me souviens toujours de ce que ma grand-mère me disait, en m'enseignant que je devais faire mon lit avant d'aller à l'école, parce qu'il fallait que ce soit en ordre, la chambre. Ce n'était pas elle qui avait l'affaire, elle nous apprenait à la faire. Elle disait, souviens-toi du Seigneur. Hein? Parce que c'était toujours à nous ramener au Seigneur. Souviens-toi du Seigneur Jésus, il n'est pas sorti précipitamment du tombeau. Les bandelettes étaient à part, et puis le linge était plié à part. C'était en ordre dans le sépulcre. Alors notre chambre, elle doit être aussi en ordre. Avant notre départ, on a trouvé tout en ordre. Donc vous savez, ça m'est resté toujours. Et quand je faisais mon lit, ben, il ne fallait pas simplement, puis on me jette la couverture dessus, non. Si on est regardé. Bien de même que Jésus sur la croix avait tout accompli et avait remis à Dieu son esprit, Jésus était sorti de la mort à l'heure voulue en laissant ce lieu dans un ordre parfait. Alors, si vous pensez maintenant à un autre mort qui a été ressuscité, vous pensez à qui ? Lazare. Alors allez visiter un petit peu l'histoire de Lazare. Lazare, lui, il était sorti du tombeau à la parole puissante de Jésus, mais il a fallu le délier. L'ordre qu'a donné Jésus au sujet de Lazare, déliez-le parce qu'il était tout lié. Je ne sais pas trop comment il marchait, mais enfin, il était lié. Et puis, il avait le linge de suaire sur le visage. Il était enveloppé dans le linge, qu'il est dit. Jean, chapitre 11, verset 44. Faites la comparaison entre le sépulcre que quitte Jésus et le sépulcre que quittera Lazare. Il faut le délier et enlever son linge. Alors, nous-mêmes, est-ce que, quand nous sommes convertis, est-ce que nous avons encore le suaire sur le visage ? Est-ce que nous avons un visage de mort ? Ou bien est-ce que nous avons le visage de la résurrection ? Parce que voyez-vous, il fallait que le grain de blé tombe en terre. Si Jésus était retourné au ciel avec Moïse et Élie sur la montagne de la Transfiguration, il n'y aurait eu qu'une vie de Jésus. Or, qu'est-ce que Jésus voulait ? C'est que sa vie se multiplie en qui ? En nous. Il voulait qu'il y ait pour lui des frères qui continuent l'œuvre qu'il avait parfaitement achevé, mais qui devait être connu. Le pardon des péchés devait être connu. Et c'est nous qui pouvons parler du pardon des péchés si nous savons ce que c'est d'être pardonné. Mais c'est aussi nous qui pouvons retenir sur les âmes les péchés si nous voyons qu'ils continuent dans l'endurcissement et dans l'ignorance. Parce qu'on s'endurcit et puis on devient de plus en plus ignorant. Alors nous avons une tâche. Le Seigneur nous a envoyé comme le Père l'a envoyé. Alors vous voyez, le salut, ce n'est pas quelque chose dont on se souvient. Oui, un jour je me suis converti. C'est quelque chose d'actuel. C'est quelque chose d'aujourd'hui. Je suis sauvé par la foi. Et pour la foi, pour vivre une vie de foi quotidienne. Une vie de foi quotidienne. On ne se souvient pas qu'on a été converti seulement. On vit avec Jésus dans cette vie quotidienne. On ne peut pas avoir une journée sans Jésus. Je dirais pas seulement une journée, mais moment après moment. Voyez-vous, depuis son arrestation jusqu'à sa résurrection, on voit encore le Seigneur dans une obéissance absolue, mais il domine avec dignité et puissance. Donc Jean, quand il a vu cet ordre dans le tombeau, il est dit qu'il l'a vu et il a cru. Est-ce qu'il a vu le Seigneur ? Est-ce que nous voyons le Seigneur, nous? Non. Mais nous croyons. Nous savons que le tombeau est vide. Jean 20, verset 8. Il n'était pas question d'un enlèvement. Jésus était ressuscité. Il l'avait annoncé qu'il avait le pouvoir de donner sa vie, mais aussi le pouvoir de la reprendre. Alors voyez-vous, dans Jean 10, il nous montre que lui-même avait le pouvoir de ressusciter, de se ressusciter. Mais dans Éphésiens 1, verset 17 à 20, sa résurrection est attribuée au Père de gloire. Et puis, dans Romains 4, elle est attribuée au Saint-Esprit. La résurrection est attribuée à Jésus lui-même, il s'est ressuscité, parce qu'il avait la vie en lui-même. Elle est attribuée à son Père, parce qu'on ne peut pas séparer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis, elle est attribuée aussi au Père, au Fils, au Saint-Esprit, et puis aux Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. C'était annoncé, 1 Corinthiens 15, verset 4. Mort pour nos fautes, ressuscité pour notre justification. Alors, il restait à Jésus d'être glorifié pour qu'il puisse prier le Père d'envoyer son esprit, qu'il serait appelé un autre consolateur. Jean 14. Alors, ce n'est pas le jour de sa résurrection que le consolateur est venu. C'est combien de jours après? 50. Hein? Il a vécu encore 40 jours avec ses disciples, mais il leur avait soufflé son esprit et ils étaient animés déjà par la puissance de l'esprit, mais le Saint-Esprit ne s'était pas encore révélé comme une personne pour habiter en eux. C'est ce qui aura lieu le jour de la Pentecôte. Alors, ce jour de la Pentecôte, quand on arrivera dans les Actes, il est là question d'un fait historique, qui est l'accomplissement partiel d'une prophétie, la prophétie de Joël au chapitre 3. Alors, il y a deux questions avec lesquelles nous terminons ce premier exposé. Le thème de notre troisième volet, c'est le Saint-Esprit dans l'Église est dans nos vies. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que l'Église? Est-ce que l'Église existait dans la vie du Seigneur quand il était sur la terre et qu'il allait de lieu en lieu? Non. L'Écriture est claire là-dessus. Il y en a qui veulent voir l'Église déjà dans le peuple d'Israël, l'assemblée d'Israël. Non, mais alors, ce qui compte pour nous, c'est ce que dit le Seigneur. Alors, vos réponses, vous les avez. Matthieu, chapitre 16. Vous lisez ces quelques versets. Depuis le verset 13, pour laisser dans le contexte. Jésus arrivé sur le territoire de Césarée et de Philippe, c'est au pied de l'Hermon, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Matthieu 16, verset 13. Ils répondirent. 16. Hein? 16, verset 13. Les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est la fameuse confession de Pierre. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire, tu n'as pas trouvé cela tout seul. Hein? Ce n'est pas sorti de ton propre cœur. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Donc, quand on reçoit une vérité, elle vient d'où? D'en haut. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas sur Pierre lui-même, hein. C'est sur sa confession sur ce qu'il vient de dire, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est pour ça que d'autres ont traduit sur ce roc, parce que c'est ça le rocher c'est qui? C'est le Christ. Mais évidemment, l'apôtre Pierre est une des premières pierres de l'édifice sur le Christ. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Donc, Jésus parle de bâtir son église. S'il parle de bâtir son église, c'est qu'elle n'est pas encore là. Parce que l'église ne pouvait sortir que de la mort et de la résurrection de Christ. Et pour vous donner la preuve que c'est vrai, on voit quand l'église existe, j'arrive à acte 2, donc après la Pentecôte, qu'est-ce que vous lisez? Ceux qui avaient cru, donc, qui ont été touchés par la parole de Pierre, par sa prédication qui les a amenés à la repentance et à la foi au Seigneur Jésus. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Puis on voit, verset 46, chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple, d'un commun accord, ils rompaient le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur, ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés. C'est le Seigneur qui ajoutait à l'Église, c'est pas un prédicateur, c'est pas Pierre. Pierre était l'instrument, il a présenté la parole, mais ce n'est pas les conversions de Pierre, c'est le travail de l'Esprit de Dieu. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui devaient être sauvés. Et voyez-vous, Jésus disait à son Père qu'il n'avait perdu aucun de ceux que Dieu lui avait donnés. Il ne s'est jamais attribué la gloire à lui-même, c'était toujours à son Père. Donc, à cette question, nous savons que l'Église ne pouvait être vue qu'après la Pentecôte. Ce sera notre sujet de cet après-midi. Mais, nous avons encore une autre question à laquelle nous désirons que vous réfléchissiez. Le Saint-Esprit, d'après ce que vous connaissez, est-ce que c'est une puissance ou est-ce que c'est une personne? C'est les deux. Hein. Je pense que vous l'aurez bien compris. Et alors, le Saint-Esprit se manifeste d'abord comme puissance, même quand on n'est pas converti, justement, c'est ça. La puissance du Saint-Esprit nous travaille pour nous amener à la repentance, pour nous convaincre de péché, pour nous montrer notre faiblesse, la faiblesse de la chair et la corruption de la chair. Et quand nous sommes convaincus de cela, eh bien le Saint-Esprit ne nous laisse pas dans la misère. Quand je lisais autrefois Jean-Paul Sartre là, et ses théories, eh bien, il essayait de démontrer que l'homme était un tas de fumier. Hein. Mais il nous laissait sur notre fumier. N'est-ce pas? Que nous sommes mauvais, ben, nous l'apprenons, oui. Et alors, que fait Jésus? Quand il nous a convaincus que nous ne pouvons rien, il nous dit, ma vie à moi, je te la donne. Je prends la tienne, ton fumier, je prends. Je meurs pour toi. C'est ça qui est admirable, c'est ça qui est merveilleux. Mais alors, il n'y a plus de gloire pour nous. On voudrait toujours nous-mêmes nous sauver par nous-mêmes, faire quelque chose. Faire quelque chose, laisse-toi faire, abandonne-toi. Dis au Seigneur, maintenant j'en ai assez, puisque tu me dis cela, je le crois. Quand on est acculé, quand les créanciers viennent, puis que quelqu'un, un ami riche passe, et nous dit, mais moi je paierai pour toi, est-ce que vous discutez? Qu'est-ce qui restera entre vous et votre ami? Une dette d'amour. Une dette d'amour. et vous saurez comment vivre et que faire après. Alors nous n'irons pas plus loin pour l'instant. Nous vous demandons de réfléchir à ces deux questions. Et vous avez vos petites feuilles où vous pouvez donner les réponses. Selon les Écritures Ancien et Nouveau Testament, le Saint-Esprit est-il une personne ou simplement une puissance? Alors vous avez peut-être des exemples dans l'Ancien Testament qui vous montrent les deux. Si le Saint-Esprit est une personne et une puissance, quand agit-il comme puissance et où se manifeste-t-il comme une personne? Et maintenant, quand Jésus était sur la terre dans son ministère, qui était le peuple de Dieu sur la terre? Oui, vous avez assez de connaissances. Et alors, cherchez à voir ce qu'est l'Église. Nous en prions. Dieu notre Père, comme nous avons vu ton esprit œuvrer à la création pour restaurer toute chose, comme nous l'avons vu opérer dans la vie du Rédempteur et pour notre rédemption, nous voulons te demander de nous préparer et d'ouvrir nos yeux pour nous montrer ce que tu peux faire par ton esprit quand il habite en nous. Quand ce n'est plus seulement une puissance qui nous saisit dans les grands moments, dans les temps où tu nous demandes peut-être beaucoup, alors nous savons ce que c'est que d'être saisi par ton esprit comme Pierre l'a été, comme Jean l'a été, comme d'autres. À certains moments, garde-nous de donner des définitions sur ces expériences que les uns et les autres peuvent faire pour que nous ne tombions pas dans la confusion et que nous ne laissions pas les âmes dans la confusion. Donne-nous de croire que ta parole est inspirée jusque dans ces mots et que si tu emploies un mot, c'est pour que nous soyons sensibles à ce que ce mot veut dire. Nous te le demandons ensemble pour notre bonheur en Jésus-Christ. Sois, et nous savons que tu y es, dans chaque chambre pour accueillir chacun de nous en ton amour. Préside aussi dans les ateliers et que nous puissions nous retrouver dans la joie et en sachant que c'est ton esprit et non pas un homme qui nous enseigne et qui nous dirige. Amen.